vous restez avec nous, oui. Yves Michaud. On ouvre la revue des matins avec vous, Mathilde Serrel. Ça va?
Et vous, Florian?
Eh bien, très bien. Mathilde, dans votre billet culturel, vous revenez sur ce véritable pari de la culture qui semble être celui d'Emmanuel Macron et qui, après un an de présidence, est encore loin d'être tenu.
Oui, contrairement à ses prédécesseurs Nicolas Sarkozy ou François Hollande, Emmanuel Macron avait montré lors de sa campagne son attachement fondamental à la culture. Elle était même pour lui la chose la plus importante, comme il le martelait dans l'émission Quotidien en mars 2017.
La culture, c'est ce qui m'a fait, moi, c'est ce qui m'a construit, c'est ce qui m'a fait sortir de là d'où je viens pour essayer de me transformer. Donc moi, c'est la chose la plus importante de ma vie, le rapport à la littérature, à la musique. Donc je laisserai personne me donner des leçons là-dessus.
Compris ici. Au matin de France Culture, il défendait ce qui deviendra la ligne force de la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, la lutte contre la ségrégation culturelle.
Aujourd'hui, notre politique culturelle, faut le dire, c'est une politique d'assignation à résidence. C'est une politique où on dit à un jeune, tu viens de où? Tu viens de là, on va te faire du djembé, c'est très sympa, tu vas voir. Et puis on dit à l'autre, toi tu peux y aller, tes parents vont t'emmener au musée. C'est le rôle de l'État, c'est de casser ces injustices, c'est de permettre ce qui est. C'est pas une grande infrastructure la culture, c'est un parcours.
Tout concourait au départ à imaginer que la culture serait un marqueur fort du changement à l'ère Macron. Un président cultivé, ancien assistant du philosophe Paul Ricoeur et qui avait prononcé son discours de victoire devant la pyramide du Louvre de l'architecte Léo Ming-Pei, symbole des grandes heures de la politique culturelle en France. Nomination au ministère de la Culture de la patronne d'une maison d'édition audacieuse, exigeante et non parisienne, Françoise Nyssen, marquait en outre l'ambition de promouvoir une actrice culturelle plus qu'un technocrate à ce poste clé. Un an après, et sur différents aspects que j'ai régulièrement évoqués dans ce billet, ce grand chantier des politiques culturelles peine à démarrer. La ministre de la Culture, militante sincère de cette grande lutte contre la ségrégation culturelle, est politiquement très affaiblie. Elle est d'abord dépossédée de plusieurs dossiers, patrimoine, francophonie, audiovisuel public, piloté directement par l'Élysée et Matignon. Son plan « La culture près de chez vous » est sévèrement jugé par nombre d'acteurs culturels qu'il considère en dessous, voire totalement à côté des enjeux d'une nouvelle décentralisation. Enfin, le Pass Culture, qui devait accompagner l'entrée dans la vie culturelle des jeunes, est défini dans sa forme, un GPS de la culture, mais reste désorienté sur le fond, le contenu de l'offre, son financement et son mode d'articulation avec les passes culture existants en région ne sont toujours pas définis. Enfin, sur l'éducation artistique, la promesse de campagne, 100% des enfants auront accès aux actions d'éducation artistique et culturelle, on ne voit toujours pas comment elle va être mise en place. Reste le plan pour l'extension des horaires d'ouverture des bibliothèques redéfinies en maison de service public culturel qui poursuit son développement ou encore les engagements pris pour atteindre la parité dans les institutions culturelles. Mais au vrai, des auspices encourageantes, nous sommes passés au temps de l'inquiétude. Était-ce donc cela le grand changement ?
Yves Michaud, peut-être une réaction sur ce grand chantier de la politique culturelle.
C'est un sujet que je connais
absolument bien.
Je dirais que premièrement, d'abord, les ressources du ministère de la Culture sont limitées, et elles sont limitées, j'espère ne pas me faire jeter par la fenêtre, par l'énorme enveloppe de l'audiovisuel public. Et c'est pour ça que je pense que...
Ah voilà, c'est encore la faute de l'audiovisuel public.
Oui, non mais tant pis, excusez-moi, je vais vous dire des choses agréables. C'est pour ça que je crois que l'objectif de réduire la part, si on veut donner des moyens aux actions proprement culturelles, il faut arriver tôt ou tard à réduire la part de l'audiovisuel public. Mmh. Pas pour faire des économies budgétaires, mais pour relancer le budget de la culture. La seconde chose, c'est que les intentions sont très bien. Je vais vous donner une anecdote très rapide. Au Salon du Livre, le ministère de la Culture avait eu l'idée de distribuer des chèques livres de 10 euros aux jeunes pour aller acheter des livres. Ils ont commencé à distribuer les chèques livres et les jeunes revendaient les chèques à 6 euros. C'est-à-dire qu'on a le problème aussi de la mutation culturelle. C'est pour ça que le pass, ils n'arrivent pas à le mettre sur pied, parce que s'ils donnent ce pass, les gens, ils vont acheter du Netflix, ils vont acheter du Spotify, ils vont acheter du iTunes.
C'est peut-être parfois qu'il faut reconnaître qu'il faut passer à une autre option, une autre proposition.
Je pense qu'il faudrait abandonner le pass.
Voilà. Et par ailleurs, sur le chantier de l'Europe, quoi, j'ai relu hier les engagements de la culture du président Macron, il manque quand même cet Erasmus des professionnels de la culture qui était prévu, l'émergence d'un Netflix européen, entre autres dispositifs qui avaient été pensés, puis aussi il y avait un fonds d'investissement pour les industries créatives et culturelles à hauteur de 200 millions d'euros que je vois toujours pas.
Oui, émerger. Non, mais je veux dire, il y a pas d'argent, mais et puis alors aussi une chose, c'est que le ministère de la Culture, il y a eu tellement de ministres de la Culture depuis quelques années qu'en fait il est dirigé par sa bureaucratie. On quand vous changez le cocher toutes les 10 minutes, c'est les chevaux qui conduisent la charrette. Hein.